9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bonjour amis auditeurs, Maître Serran est ravi de vous retrouver. Alors, vous êtes peut-être encore affalé sur votre lit près de madame qui sollicite un petit bisou du matin, mais je vous le concède qu'à cette heure-là, elle pue probablement de la gueule et c'est à ce moment précis que vous avez envie de lui dire « mais porte un masque, bordel !» Mais c'est pas grave, on peut nous écouter même allongé avec une haleine de cheval. Vous êtes peut-être prêt à prendre un petit café ou un chocolat, tout comme moi d'ailleurs, chocolat offert comme tous les samedis par Monsieur Philippe Robichon. Vous êtes peut-être prêt à aller au marché, attendez au moins la fin de l'émission. Vous êtes enfin peut-être chauffeur de taxi, de VTC, chauffeur livreur, chauffeur de bus, pilote d'avion. Faites profiter vos passagers de l'émission, émission dont le but est de tenter de répondre à vos tracasseries juridiques. Mais avant de nous lancer dans ce petit jeu de questions-réponses, évoquons l'actualité de la semaine et tout d'abord la piètre prestation des joueurs français à Roland-Garros. 28 participants et plus aucun joueur français qualifié. Quand je pense que la dernière victoire d'un Français à Roland-Garros date du 5 juin 1983, 40 ans déjà, et c'était Yannick Noah. De toute manière, aujourd'hui, à part Nadal, qui ne participe pas au tournoi, et Djokovic, je ne connais quasiment aucun autre joueur, et encore moins les joueuses. Je suis de la génération Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Sampras, plus récemment Federer, évidemment. Vous aurez remarqué que je ne cite aucun joueur français. D'ailleurs, Roland Garros lui-même n'était pas un joueur de tennis, mais un aviateur. Et chez les filles, je ne citerai qu'une seule joueuse, mon cher Philippe, qui m'a marqué, Gabriella Sabatini, la grâce en personne que les plus jeunes ne connaissent bien évidemment pas. Mais l'actualité, ce n'est pas que le tennis, c'est aussi les reproches qui sont faits au Rassemblement National. Alors, je ne suis pas un défenseur du Rassemblement National, mais il faut reconnaître que la classe politique ne cesse de les emmerder pour le prêt que ce parti avait contracté auprès d'une banque russe. Et c'est sûr que si le RN avait contacté un prêt auprès d'une banque ukrainienne, Macron aurait fait de Marine Le Pen un Premier ministre. Quand je pense qu'il y a peu de temps, la France faisait des courbettes aux oligarques russes, normal, ils claquaient leur argent dans l'immobilier, l'achat de yachts, les grands hôtels, et là, dès que tu dis russe, t'as l'impression de dire un gros mot. D'ailleurs, une joueuse de tennis ukrainienne a refusé de serrer la main d'une joueuse russe et biélorusse. Heureusement qu'elle a été sifflée par le public. Il faut croire que les Français commencent à se réveiller et n'ont peut-être pas envie de se sacrifier pour ce pays de corrompu qu'est l'Ukraine. Oh, enfin, j'ai failli oublier. Saluons la victoire de Monsieur Recep Tayyip Erdogan que les puissances occidentales donnaient perdant. Mais l'hypocrisie des Occidentaux n'ayant pas de limite, Paris, Washington, Bruxelles ont salué la victoire du président turc. Alors normal, l'enjeu principal est l'accession de la Suède à l'OTAN, bloquée actuellement par la Turquie, alors que ces pays soutenaient Kemal Kılıçdaroğlu, le chef de file de l'opposition. Alors si vous êtes pro-Poutine, pro-Erdogan, pro-Kim Jong-un, pro-Loukachenko, pro-Xi Jinping, n'hésitez pas à composer le 01 53 48 3000 pour poser toutes vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui fut secrètement amoureux de Gabriella Sabatini, Monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran, alors il faudra expliquer aux jeunes générations pourquoi vous aimiez Gabriella et sa petite jupe.
Ah ouais, c'était... Alors d'abord, oui. Grande joueuse.
Grande joueuse.
Quand même. Ouais. Grande joueuse, mais avec une plastique extraordinaire et puis un sourire ravageur. Donc une très belle femme. Et pour préparer cette émission, que je prépare toujours très sérieusement.
Très consciencieusement. Hein,
voilà, on est d'accord. Ouais. Donc je me suis permis d'aller sur Google et puis... j'ai regardé à quoi ressemblait Gabriella Sabatini aujourd'hui. Ça reste une très belle femme.
Ouais, voilà. Elle vieillissent bien les tennis moments, ouais, ouais, en général. Ouais. Elles s'entretiennent.
Ouais, complètement. Ouais. Donc c'était une belle jeune fille et puis c'est aujourd'hui une très belle femme.
Avec Chris Evert Lloyd aussi.
Oui, bon. Aussi. Oui.
Voilà. Bon.
Ouais.
Eh oui, on est des vieux machins, Maître Serran. Alors je ne sais pas.
Mais
si...
on n'a pas un vieux machin. Bon, vite fait, c'était dans la continuité.
Je vous laisse, Maître Serran.
C'était dans la continuité.
Grand moment de solitude radiophonique. Et je ne sais pas si le sujet que vous avez décidé d'aborder ce matin est un rapport avec l'arrivée, on en parlait la semaine dernière, de Ghost Serran dans votre famille. Hein, Ghost Serran, oui, oui. Qui est avec nous ce matin, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous, hein, d'aller renifler un petit peu partout.
Voilà, mais... il renifle partout. Et il est sage quand même.
Il est très très sage. Pour l'instant, il est très très sage.
Bien éduqué.
Et puis alors, il a mis Fodil à distance. Vous avez vu ça?
Donc on découvre qu'effectivement, donc Fodil a une peur excessive, selon moi, des chiens.
Un pauvre chiot de 5 mois.
Ouais, alors que je cherchais quelqu'un pour garder vos camarades Ghost et je pensais à Fodil.
Oui, pour se faire un peu d'argent de poche.
Bah, voilà. Donc je crois que ce sera injouable.
Non, je crois que non. Ce soir, il a des projets. Tout ça pour nous pas pour que parler aujourd'hui de la législation des chiens. Il existe ce qu'on appelle des chiens catégorisés. Alors qu'est-ce qu'on appelle les chiens catégorisés?
Oui, alors en fait c'est je me suis penché sur la question et c'est quand même assez surprenant que ce soit autant réglementé effectivement cette histoire de catégorie de chiens. Donc on a une toute première catégorie qualifié entre guillemets, ou en tout cas qu'on peut considérer comme la catégorie la plus lourde, ce sont les chiens d'attaque. Et puis, dans cette deuxième catégorie, on a des chiens de garde et de défense. Alors, il faut savoir que le chien que j'ai, par exemple, mon excellent gosse qui est en train de bouffer la chaise au moment où je vous parle.
La chaise neuve. Donc, si vous voulez, je pense que vous allez avoir une petite note.
Qu'on a attendu pendant au moins un an. Donc, ce chien qui est un staff, donc qui est un chien de catégorie 1. Alors, pourquoi première catégorie? Parce que c'est un chien qui n'est pas inscrit, en tout cas, dans le livre des origines français. Alors, ce livre des origines français, c'est pour catégoriser les chiens, entre guillemets, de pure race. Et ça permet d'avoir une lignée complète. Et la plupart, enfin, il y a beaucoup de chiens qui ne le sont pas, et encore une fois, et en tout cas, le mien ne l'est pas. Donc, il est en catégorie 1, et c'est une catégorie, en fait, qui est assez contraignante, puisqu'on a beaucoup d'obligations à respecter. Il faut savoir d'abord que, alors vous savez, hein, quand on a des enfants, les enfants aiment bien le promener, alors pour le moment, puisqu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, les enfants vont renoncer, et c'est toujours les parents qui s'en occupent. Mais il faut savoir que c'est un chien, par exemple, que vous ne pouvez pas laisser seul avec un mineur, c'est-à-dire qu'un mineur qui se baladerait avec un chien, donc il y aurait le risque que ce chien soit dans un premier temps pris par la police et que vous soyez...
Avec un chien de la catégorie 1.
Catégorie 1. Ouais. Oui, non, catégorie 1. C'est d'accord. Pour ça que je dis c'est une catégorie qui est très particulière. C'est un chien qui, lorsque vous baladez que ce soit dans des parcs ou même, par exemple, dans des lieux comme une copropriété, ce sont des chiens qui doivent porter une muselière, ce sont des chiens qui doivent être tenus en laisse systématiquement. Là encore, ça peut donner lieu à une infraction si votre chien se balade sans laisse. À la limite, on peut l'entendre et le comprendre, mais s'il se balade également sans muselière. Ce sont des chiens qui doivent être signalés à votre compagnie d'assurance, même si vous avez une assurance responsabilité civile, il ne faut pas hésiter à les contacter et à demander une confirmation, comme quoi vous avez bien déclaré votre chien. Alors on comprend tous aisément pourquoi, puisque si demain votre chien, pour une raison lambda, était amené à mordre une personne, il faut bien que vous soyez assuré. Sinon, là encore, c'est une infraction pour vous. Et puis, vous savez, on est à l'abri de rien, donc il vaut mieux que votre compagnie d'assurance soit informée. Mais j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il suffit pas simplement de passer un petit coup de fil et de dire j'ai acheté un chien de telle catégorie, parce que généralement la réponse est de dire vous inquiétez pas, c'est compris dans le cadre de votre assurance habitation. Ce qui est vrai, mais il faut quand même que ce soit spécifié, donc vous demandez toujours à votre compagnie d'assurance de vous confirmer ça par écrit, un petit courrier ou un mail. Comme ça, dans l'hypothèse où demain il y aurait la moindre difficulté, vous pourriez évidemment être couvert si, encore une fois, si votre chien était amené à faire des dégâts ou éventuellement à mordre quelqu'un.
Mais alors, c'est couvert par la responsabilité civile, il n'y a pas besoin de contracter une assurance particulière.
Non, il n'y a pas besoin de contracter une assurance particulière, mais... La mauvaise foi, on va dire, des compagnies d'assurance, c'est que si demain vous les contactez pour dire je viens déclarer un sinistre car j'ai un chien qui a mordu de telle ou telle personne ou qui a commis des dégâts. Vous imaginez bien que la première question qui sera posée par votre compagnie d'assurance, ce sera de dire, en tout cas de vérifier, de dire, mais à quel moment vous nous avez informé que vous aviez un chien. Donc, il faut être carré là-dessus. Vous n'hésitez pas à contacter votre compagnie d'assurance et à demander une confirmation comme quoi vous avez bien demandé, vous avez bien fait part de la présence de ce chien désormais à votre domicile. Ça, c'est important puisque, encore une fois, là, c'est tout à fait personnel, hein, puisqu'avant ce camarade Ghost, j'avais un autre chien qui était un dog argentin. Ce sont des chiens extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils sont pas méchants du tout quand vous en occupez correctement. Ce sont des chiens qui aiment les enfants, quoi qu'on en dise. Alors oui, on a parfois entre guillemets des accidents. Et on nous parle souvent aussi de Rottweiler qui aurait attaqué un enfant, qui aurait attaqué un adulte, mais c'est pas spécifique à ce type de chien. N'importe quel chien peut à un moment entre guillemets vriller, ou si vous êtes mal comporté à ce moment avec lui, même le chien le plus gentil du monde, au bout d'un moment, il peut effectivement vous mordre. Mais voilà, ça reste des chiens en tout cas extrêmement doux, extrêmement agréables. Voilà, donc moi j'ai du mal à comprendre cette législation spécifique, parce qu'il faut savoir quand même que vous devez vous balader avec une déclaration spécifique qui est remise par votre vétérinaire. Le chien doit faire l'objet entre guillemets d'une étude. C'est-à-dire, il faut que le véto vérifie si c'est un chien qui se comporte correctement, si il n'est pas potentiellement dangereux. Donc il y a presque une étude psychologique de votre chien. Et là encore, on vous remet une petite attestation. Donc ça reste très contraignant en dehors, mais ça c'est légitime et c'est normal, en dehors de la vaccination contre la rage. Mais ça, donc tous les ans, et ça on peut l'entendre et le comprendre. Mais pour cette catégorie de chiens, vous avez toute une série d'obligations et même, j'allais dire, un petit stage, puisque ça dure une journée, là encore, pour voir un peu, en tout cas pour, d'après ce qui est indiqué, pour vous apprendre les bases concernant ce type de chien. Donc ça reste quand même une contrainte et une responsabilité quand vous avez un chien qui est classé dans la catégorie 1 ou dans la catégorie 2, mais plus spécifiquement dans la catégorie 1.
Mais il parlait d'un permis.
Oui, alors c'est un permis qui vous est remis, alors gracieusement, qui résulte d'une déclaration que vous devez faire auprès de la mairie de votre domicile. Et il faut savoir que si, par extraordinaire, vous étiez amené à déménager, même cause, mêmes effets, vous devez aller signaler votre chien auprès de la mairie. Alors on va vous remettre effectivement un permis. Encore une fois, c'est gratuit. Mais c'est vraiment pour vous ficher. C'est-à-dire que il faut savoir que ce sont des chiens qui doivent être stérilisés. L'objectif étant, au bout d'un moment, de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette race de chiens. Bon, c'est encore une fois, moi, je considère que c'est problématique de raisonner comme ça. Pour autant, des chiots, il y en a encore, donc ce qui veut dire que cette loi n'est pas, et heureusement selon moi, même en qualité d'avocat, je ne devrais pas dire ça, mais moi je considère que on n'a pas à stériliser tous les chiens de cette race-là pour les faire disparaître, puisque ce serait l'objectif final. Donc encore une fois, c'est beaucoup de contraintes pour ceux qui souhaiteraient avoir ce type de chien. Évidemment, il y a ces modalités à respecter, puisque vous avez bien compris que la difficulté, c'est que si demain, encore une fois, vous étiez amené à être contrôlé et que vous ne pouvez pas justifier des différents documents, vous avez des amendes. Si demain, il devait se passer l'irrémédiable, c'est-à-dire une personne qui se fait attaquer par votre chien, ça relève du tribunal correctionnel. Et puis parfois, indépendamment de l'aspect juridique, il est certain que ce type de chien, quand il attaque, que ce soit un enfant ou un adulte, les dégâts sont importants. Donc il faut aussi, entre guillemets, savoir maîtriser ce type de chien et lui apporter toute l'affection nécessaire.
Bien, en tout cas, il y a des raisons aussi, hein. faut être clair, parce qu'il y a eu des accidents.
Donc, ah non, mais il y a eu des accidents terribles et il y a à peu près 5-6 mois, j'ai une femme qui m'a envoyé les photos de son fils qui s'est fait attaquer par un chien au niveau de la lèvre et de la joue. Donc effectivement, ce sont des dégâts qui sont terribles. Mais voilà, c'est comme c'est souvent le cas, c'est-à-dire que vous avez une poignée de propriétaires qui se comportent mal et on a une législation générale. Vous savez, les propriétaires qui font des élevages comme ça sauvages ou qui organisent des combats, en règle générale, sont jamais emmerdés par la justice puisque c'est dans la clandestinité. Mais on va embêter, pour pas dire autre chose, monsieur et madame tout le monde qui fait en sorte d'avoir ce chien non pas pour organiser des combats, mais simplement pour être encore une fois en présence d'un animal sympathique.
Maître Serran, alors vous allez poser vos questions juridiques dans un instant. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h. AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez ce matin vos questions à Maître Serran au standard de Beurre FM au 01 53 48 3000. Maître Serran, assisté de Ghost. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Maître
Serran ? Rien, je crois qu'il est en train de bouffer des trucs et il part.
Oui.
Il part de votre côté.
Oui. Ouais. En fait, c'est l'âge. C'est l'âge où tout l'intéresse, les chaussures, alors les fils électriques.
Oui, les fils électriques. Oui, alors les chaussures, ouais, c'est sans pitié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser. Mm-hmm. Ouais, il passe son temps à les mâchouiller.
Tout ce qui pend, en fait.
Ouais.
Voilà. Là, je crois qu'il est en train de s'attaquer à mes lacets.
Ouais,
là où je sens un museau qui commence à s'attaquer à mes mollets. Vous voyez ?
Mais il vous fera pas mal, il vous aime bien.
Et votre assurance responsabilité
civile. Ah, j'ai pas encore prise, hein. Attendez un peu.
Maître Serran, est-ce qu'elle est bien, votre assurance?
Oui, je suis couvert.
Bien, alors, nous avons Afid qui vous appelle au 01 53 48 3000. Afid.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, Afid.
Allô,
oui, Afid.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Très bien, et vous?
Oui, ça va. Je téléphone, j'avais eu Maître Serran à l'extérieur, en fait. Pas à la radio, au sujet d'un souci au niveau d'une chaudière. Je sais pas s'il va se rappeler de moi, parce qu'avec le monde qu'il a.
Non, pas spontanément comme ça, non, mais on vous écoute.
D'accord, j'avais un problème suite à un défaut d'installation à la construction de ma maison, et elle engendrait toujours des pannes, c'est-à-dire toujours il y avait un défaut sur les chaudières, et l'assurance d'entretien. Si vous voulez, attendez, je vais enlever ce truc-là. L'assurance d'entretien, ils ont estimé que c'était à cause d'une mauvaise installation et qu'il y avait une fuite de monoxyde de carbone. Donc j'ai contacté la décennale et au départ, ils m'ont dit que c'était la biennale qui devait prendre le truc, mais étant donné que le temps était passé, qu'ils voulaient pas prendre en charge, en grosso modo. Donc j'avais suivi vos conseils il y a peut-être un mois et demi, j'ai envoyé un courrier pour faire une mise en demeure, exemple. Et j'ai toujours pas de réponse.
Alors la difficulté, c'est que si vous n'avez pas de réponse à la suite de la mise en demeure, c'est qu'a priori, ils veulent laisser couler le truc. Donc à charge pour vous, éventuellement, d'aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire les assigner devant une juridiction. Voilà, vous avez fait le nécessaire. C'est-à-dire que vous les prévenez officiellement dans le cadre de cette mise en demeure, de deux choses l'une. Ils reviennent vers vous, mais quand bien même ils diraient non, mais au moins il y a une explication très très précise. Mais si vous me dites que c'est le silence et qui reviennent pas vers vous, ben dans ce cas-là, faut passer au stade supérieur, monsieur. Et le stade supérieur, c'est de les assigner. Alors il pourrait y avoir, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que vous pourriez assigner, comme on dit, en référé. C'est une procédure d'urgence qui consisterait peut-être à solliciter une expertise pour voir très précisément d'où vient le problème. Et une fois le rapport de l'expert rendu, en fonction de la détermination de la responsabilité, vous pourriez vous retourner contre eux. Selon moi, ça reste la meilleure des options. Il n'y a rien.
Parce qu'en fait, suite à leur expert, la première fois, il n'avait rien regardé, il a juste regardé que ma chaudière avait pas de dépôt. Mmh. Donc ils ont Ils ont laissé passer comme ça en disant qu'il n'y a rien. Et du coup, en insistant, moi j'ai insisté. Donc il y a eu un deuxième rendez-vous. Ils ont envoyé un service d'une entreprise pour contrôler, etc.
Ouais.
L'entreprise leur a fait le rapport, leur a donné. Mais l'expert reste toujours dans son truc en disant, étant donné que la chaudière est dans un garage, c'est pas impropre pour eux, c'est pas considéré impropre à la maison, quoi. Alors que la chaudière, qu'elle soit dans le garage ou pas, le problème...
Ouais, alors, il faut savoir que l'expertise dont je parle est une expertise judiciaire, c'est-à-dire qui décide... de désigner, en tout cas de faire appel à leur propre expert, pourquoi pas, pour avoir déjà une idée. Il est rare d'ailleurs que les expertises décidées par ces services soient en faveur du particulier. Mais là, il s'agirait d'une expertise judiciaire. C'est-à-dire, c'est un expert indépendant qui vous connaît pas et qui connaît pas la partie adverse et qui, en toute objectivité, va établir un rapport et se prononcer éventuellement sur le point que vous êtes en train d'évoquer, à savoir est-ce que cette chaudière doit ou devrait ou aurait dû se trouver à tel ou tel endroit. Enfin, moi, ça me semble particulier, ouais, l'argument qu'ils ont invoqué, mais bon, je suis pas expert en la matière, mais voilà, un expert donc se prononcera là-dessus. À partir du moment où il va se prononcer là-dessus, ensuite, il déterminera le ou les responsabilités. Alors, vous avez bien compris que c'est toujours à double tranchant, une demande d'expertise, hein, auprès d'un tribunal. Il est certain que si l'expert rend un rapport qui va dans votre sens, évidemment, vous pouvez aller tranquillement ensuite devant le tribunal pour ce qu'on appelle une procédure au fond. C'est-à-dire, à ce moment-là, obliger les intéressés à faire le nécessaire et éventuellement demander des dommages et intérêts. Mais il faut évoquer aussi l'autre option. Voilà, imaginez 30 secondes que cet expert, pour une raison lambda, dise c'est comme ça et je ne suis pas d'accord avec monsieur. Il est certain que ça va vous fragiliser considérablement.
Oui.
Voilà, donc parce que souvent on parle des expertises, mais voilà, dans la réalité des dossiers, parfois, quand l'avocat reçoit le rapport d'expertise, et ben on constate que l'expert n'est pas en faveur de notre client. Donc c'est une grosse déception. Et il faut savoir que l'expertise, il faut bien qu'elle soit payée par quelqu'un. Et en règle générale, elle sera payée par la personne qui succombe à la procédure.
Exactement, oui.
Donc ça signifierait quoi? Ça signifierait qu'un expert pourrait, je dis bien pourrait, hein, j'en ai aucune idée, mais c'est une option. Il pourrait ne pas vous donner raison, et puis s'il vous donne pas raison, les frais d'expertise, qui sont quand même assez élevés, pourraient être mis à votre charge.
Ah, d'accord.
Ouais, voilà. Donc, il faut pas non plus, même quand on parle d'expertise, de procédure de référé et autres, il faut pas non plus faire ça à la légère. Voilà. Il y a, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un risque. Et le risque, c'est d'être débouté et puis d'avoir à sortir son chéquier parce que les frais d'expertise, encore une fois, peuvent être mis à votre charge.
D'accord, parce que par rapport à la société d'entretien de la chaudière, eux, c'est pas eux qui ont installé la chaudière, hein, c'est la société que j'ai prise après, une fois avoir habité à la maison. Mmh. Et eux, ils estiment que ça, suite à une fuite de monoxyde de carbone au niveau de l'installation, qui engendre plusieurs codes défauts et à l'avenir qui risque de bousiller la chaudière. Et normalement, la société ne voulait pas me reprendre après décembre 2022. Ils m'ont dit si l'affaire n'est pas réglée, malheureusement, on ne pourra pas vous reprendre encore l'année d'après.
Ils vous ont confirmé ça par écrit ?
L'assurance
cette société qui dit s'il y a un problème, c'est à cause de. De l'installateur initial.
Bah, oui, ils ont fait un écrit que j'ai transmis au niveau de la société décennale et j'ai une copie à l'expert. Mais voilà, la société décennale, eux, à partir du moment où leur expert leur dit ça, bah, ils disent que.
Ah non,
voilà,
c'est certain, mais ouais, ça c'est intéressant quand même que vous ayez un document d'un intervenant qui dit nous on estime que. Donc ça justifierait quand même. Une expertise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de partir entre guillemets perdant avec tout le monde qui dirait ben non monsieur vous avez tort, c'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un du métier, une société sérieuse qui dit effectivement le problème peut venir de là. Alors que l'expert de l'assurance n'en tienne pas, prenne pas ça en considération, je le redis, dont acte, il est désigné et payé par les intéressés. Donc posez-vous la question, ça peut valoir le coup de d'engager une procédure de référé, de demander la désignation d'un expert.
Oui, parce que c'est eux qui suivent l'année, toute l'année, ils suivent la chaudière. Dès que j'ai un dépôt, ils sont toujours là, ils suivent. Donc ils savent exactement ce qu'il y a. Et ils m'ont dit que si c'était eux qui avaient installé la chaudière, ils auront pris en charge l'entubage de la fuite de monoxyde de carbone, mais étant donné que c'est pas eux, s'ils doivent le faire, bah forcément je dois les payer, parce que c'est pas...
Ouais, mais alors c'est peut-être que ça coûterait moins cher que de me demander, la désignation d'un expert, et éventuellement de perdre en bout de course, non? Est-ce que vous avez chiffré éventuellement leur intervention?
Apparemment, ils m'ont quand même dit que c'est un coût, hein, pour refaire parce que eux ils doivent rechercher la fuite et ils doivent refaire l'entubage. Apparemment c'est quand même un coup, et moi j'ai trouvé bizarre que suite, étant donné que la maison a déjà moins de 10 ans, de 2016, voilà quoi, malgré
non j'entends relance. Bien, mais voilà, c'est ça reste quand même, avant entre guillemets de vous lancer dans une éventuelle procédure, c'est bien de chiffrer. C'est-à-dire qu'un expert, ça peut papillonner entre 2 et 3 000 euros. Posez-vous quand même la question. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas combien.
Il faut payer l'expert et qu'à la fin, le truc.
Non, mais voilà. C'est-à-dire que si effectivement. Euros, ouais. On est d'accord. Si à la fin, pour une raison lambda, l'expert judiciaire dit bah non, monsieur, vous avez tort, les frais seront à votre charge. Alors je ne sais pas combien cette société vous a demandé pour faire le nécessaire, mais c'est un élément qui est à prendre en considération.
Ok, je vais voir. Bah, ça serait toujours moins de 3 000 euros par rapport à un expert judiciaire.
Ah bon, bon alors je crois que... voilà, est-ce que c'est un coût de
3 000 euros, quoi. Je pense que c'est un coût de 700-800 euros, quoi.
Selon moi, vous réfléchirez, mais selon moi, ça vaudrait peut-être le coup, monsieur, de vous rapprocher d'eux. Alors ça ne fait pas plaisir de sortir 700-800 euros quand on considère que c'est injustifié, mais voilà, ça reste un gain de temps, et puis il n'y a pas d'aléa. Il n'y a pas de risque d'aller jusqu'au bout d'une procédure qui va durer peut-être 6 mois, 1 an, et à la fin, peut-être vous donner tort.
C'est pour ça que la société décennale, forcément, ça se trouve qu'ils ne se sont pas cassés la tête à vouloir...
Il y a probablement ça, bien sûr. Ce sont des éléments qui sont pris en considération, bien sûr.
Bah, ok, je vous remercie beaucoup, en tout cas, M. Serran.
Merci à vous pour votre appel et bon courage à vous.
À vous aussi, merci. Hein. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, si comme Afid, vous avez une question à poser à Maître Serran, c'est simple, hein, vous l'appelez au 01 53 48 3000 et vous passez à l'antenne. Et puis il y a tous ceux qui ne souhaitent pas passer à l'antenne, Maître Serran, et qui vous a parlé en particulier, ce qu'avait fait Afid préalablement.
C'est
donc
vrai.
Pour vous avoir en particulier, Maître Serran.
Alors vous pouvez me joindre au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64, ou sur mon adresse mail que je peux m'autoriser à donner, Maître. serhane@gmail.com.
Alors pour les personnes qui viendront vous voir au cabinet à partir de maintenant, est-ce que Ghost sera dans la salle d'attente? Comment ça va se passer, Maître Serhane?
Non, il sera toujours à l'écart si je fais des petites balades avec et si je l'emmène au cabinet, bien sûr.
D'accord, parce que vous savez que par exemple, Faudy, il a peur de Ghost.
Ouais, voilà.
Donc, on ne devrait pas non plus faire peur à la clientèle.
Non, surtout pas. Donc, je le mettrai dans le bureau de la collaboratrice.
Voilà. Qui aura une prime. Qui aura une prime, chien. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, le samedi, émission juridique. C'est Maître Serran qui répond à vos questions en direct au standard de Beurre FM. C'est quoi ce truc?
Je ne sais pas. Serran. On est piraté.
On est piraté. Là, je crois mettre. Fermez la fenêtre, Maître Serran. J'ai eu très très peur. Je me suis dit. Alors, on a Saïd qui est avec nous. Saïd.
Allô?
Oui, bonjour Saïd.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Maître.
Bonjour Saïd.
Maître, je vais vous poser une question relative à un partage d'héritage en Algérie. J'ai deux frères et un neveu qui sont en train de demander le partage d'héritage. Et moi, je suis en France, j'ai la nationalité française, j'ai pas la double nationalité, et on me demande une procuration que j'ai envoyée pour confier ma participation à mon frère. Alors, cette procuration, elle a été visée par la mairie du 19e et visée par le consulat d'Algérie. Mmh. Et là-bas, elle a été refusée.
Alors, pour quel motif ?
Eh bien, je ne sais pas, parce qu'il faut que ce soit un document du consulat d'Algérie. Mais pour avoir ce document, il faut avoir la nationalité, il faut avoir la carte d'identité algérienne ou le passeport algérien.
Et vous n'avez pas la carte d'identité algérienne ?
Non, parce que je suis arrivé, moi je suis des années 70, j'ai demandé la naturalisation française à cette époque-là, il n'y avait pas la double nationalité.
Les autorités consulaires algériennes vous confirment cet argument. Ils vous disent qu'effectivement, quand on vous répond ça, bah, ils ont raison. C'est parce que vous n'avez pas de nationalité algérienne ou pas ?
Non, parce que je suis de nationalité française maintenant.
J'entends bien. Donc, oui. Si vous êtes de nationalité française, c'est que par définition, vous n'êtes pas de nationalité algérienne. Ma question, c'est, lorsque vous avez reçu, ou lorsqu'on vous a informé de ce refus,
On est informé, mon frère, en Algérie.
Voilà, mais les autorités consulaires algériennes en France ont un service juridique qui peut éventuellement répondre à sa question. Et moi, ma question, c'était de vous demander, est-ce que vous avez contacté les autorités consulaires algériennes pour avoir une confirmation de cette information ?
Oui, ils m'ont dit, oui, non, ils ne m'ont pas confirmé.
D'accord, c'est-à-dire que quand vous leur dites... En Algérie, on me refuse car je suis exclusivement de nationalité française, donc a priori, je ne vais pas faire partie de la succession. Les autorités consulaires algériennes qui sont au fait de ce genre de situation, ils vous disent quoi ? Ils vous disent, bah oui, ils ont raison ou ils vous disent, ils ont tort ?
Sincèrement, je ne les ai pas consultés. Moi, je vous réponds ce que mon frère...
Ouais, alors... J'ai pas de doute sur ce que peut dire votre frère, mais il vaut mieux prendre l'information à la source, monsieur.
Oui.
Et l'information à la source, c'est l'autorité consulaire. C'est-à-dire que si éventuellement votre frère vous dit, bah écoute, voilà comment ça se passe, on m'a dit ça, vous allez au consulat, il y a un service juridique, vous leur posez bien la question en disant je suis exclusivement de nationalité française, on me dit que je suis ou je serai exclu. De
ah non, l'héritage. Ils ne me disent pas que je suis exclu. Ils ne parlent pas d'exclusion.
Mais on parle de quoi ?
On parle que la procuration que j'ai faite...
pas de valeur.
Voilà.
Oui, mais donc, par définition, c'est que vous êtes exclu. Si votre procuration, elle est considérée comme nulle et non avenue.
Oui.
Donc mais il faudrait quand même... Encore une fois, avoir vraiment la source, enfin, sauf si vous croyez sur parole, et je dis pas que votre frère dit des bêtises, hein, j'en ai aucune idée, mais selon moi, il vaudrait peut-être mieux vérifier cette info en disant si voilà ce que me dit mon frère, est-ce que ça correspond à la réalité ou pas.
Oui, d'accord. Par contre, je voulais vous dire, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est visée par les autorités françaises, cette procuration, et visée par le consulat d'Algérie.
C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que vous avez dit dès le début.
Oui, mais parce que il voulait un document, sur le document du consulat, c'est un document du consulat, mais ce document ne peut être signé que si j'ai la carte d'identité algérienne ou le passeport algérien. Vous comprenez ?
Ouais, bah oui, je comprends, mais ça semble aller dans le sens de votre frère, tout ça.
Oui, oui.
Ouais. Donc, encore une fois, voilà, selon moi, alors peut-être qu'il a raison, hein, vous avez bien compris, je suis pas en train de dire qu'il dit des bêtises,
oui.
Mais selon moi, il vaudrait mieux prendre l'information à la source, poser la question. Alors évidemment, si l'autorité consulaire vous dit, mais monsieur, vous n'avez pas la nationalité algérienne, donc de facto, vous ne serez, entre guillemets, pas concerné par cette procédure, eh ben ça s'arrêtera là, quoi.
D'accord. Moi, je croyais que vous saviez...
Non, monsieur, je vais vous dire des bêtises. Moi, je vous réponds, comme dirait l'autre, par rapport au... Chut.
Alors là, Ghost a failli s'attaquer à l'imam Abdelali Mamoun. On a failli perdre l'imam. Alors là, voilà. on a sauvé l'imam de justesse.
Bah alors ? C'est un ami, qu'est-ce que tu nous fais ?
Non, mais il a vu, c'est la robe. Non, il a eu peur, il a dit un homme barbu avec une robe. Il a eu peur, Ghost. Moi, je comprends, ça c'est...
Ouais, non, monsieur, vraiment, encore une fois, je voudrais pas vous répondre.
On a un mot, les documents français ne sont pas reconnus en Algérie, c'est ça que je voulais savoir.
Non, je vous dirais, je vous dirais des bêtises, sincèrement. J'ai pas envie de voilà d'aller dans le sens de votre frère ou d'aller dans votre sens. Moi, je crois qu'il vaut mieux, encore une fois, avoir l'information à la source. Posez vraiment la question au service juridique des autorités consulaires. Voilà, comme ça, vous aurez une réponse carrée. Et puis, évidemment, si on vous dit que c'est comme ça et pas autrement, ça s'arrête là.
D'accord. Je voulais juste vous féliciter parce que vous avez bon goût pour Sabatini, qui était argentine.
Ah, bah voilà, ah, voilà
un connaisseur, voilà, un fan de Gabriela.
Oui. Gabriela, qui était argentine, Gabriela Sabatini, c'était les années 70, 80, tout ça, c'était une belle fille. On était tous amoureux d'elle.
Ah bah, je pensais que j'étais le seul.
Ah non, vous avez bon goût, maître.
Bon, bah voilà, bah écoutez, je suis ravi de cette remarque.
Et c'était une belle brune, en plus.
C'est vrai.
Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation.
Merci à vous aussi. Merci.
Au revoir.
Saïd. Au revoir, bon courage.
Voilà, pour Fodil Belhamri, qui réalise l'émission, regarde un petit peu Gabriela Sabatini, et tu comprendras de quoi Saïd et Maître Serran sont en train de parler, et même l'imam Abdelali.
Et même l'imam Abdelali.
Qui ouais. a très bien connu Gabriela, oui, à l'époque. Ouais. Alors, Abderrahmane est avec nous. Abderrahmane, bienvenue. Abderrahmane. Alors, du coup, Abderrahmane a eu peur. Il a eu peur de Ghost
ou de Gabriela Sabatini.
Non. Mais c'est vrai qu'à Roland-Garros, vous avez raison, on connaît de moins en moins de noms de joueurs, mais peut-être parce qu'on s'intéresse moins aussi, Maître Serran.
Oui, mais ça veut dire que vous vieillissez, mon cher Philippe, et moi aussi.
Non, je...
Non ?
Non, non.
Il y a de ça, je crois. Hein. Non, et puis c'est plus intéressant. Voilà. Mm-hmm. C'est plus intéressant. Donc alors je sais pas si elle est encore sur le circuit. Il y a une Tunisienne aussi qui joue. Ouais, elle est toujours.
Jabber.
Ouais, mais elle joue toujours là actuellement. Elle n'a pas été éliminée encore.
Non, pas encore.
D'accord.
Elle joue le troisième tour cet après-midi.
Bon, bah voilà.
Ah bah tiens.
Et elle est classée septième mondiale.
Bon, c'est une bonne idée.
C'est bien ça.
Pour aller à Roland-Garros, Maître Serran. Vous n'avez pas parlé de Wilfried Tsonga, qui est quand même jusqu'à l'année dernière. Bon, il était.
Ouais, enfin non, mais je parle de vrais joueurs qui gagnent des titres.
Il est allé jusqu'en demi-finale, quoi.
Oui, mais voilà, ouais. ça c'est le français. Il va en demi-finale. Le français va jamais en finale. Ah, c'est toujours presque.
Est-ce que vous connaissez des Algériens qui jouent au tennis ?
Oh non, j'en connais pas. Mais moi, je suis français. Qu'est-ce que vous m'interrogez sur les Algériens ?
Vous êtes de Razaouette, Maître Serran, je vous le rappelle.
C'est vrai, je suis de Razaouette.
Vous êtes citoyen d'honneur de la ville de Razaouette, Maître Serran.
Mais non, je connais pas d'Algérien qui joue au tennis. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Vous voyez, là, il n'y a qu'une Tunisienne qu'on connaît. Mais il y a des Marocains, des Algériens. Et c'est pas leur truc, manifestement.
Peut-être qu'il n'y a pas de fédération.
C'est peut-être aussi
un travail de fédération.
Ouais, c'est peut-être les structures qui font.
Il faut repérer les gamins très tôt, parce que le tennis, les gamins, ils sont enrôlés très très tôt. Hein. Ils sont enlevés de leur famille très tôt.
C'est dommage de passer à côté de ça. C'est vrai. Mm-hmm. Bon, en tout cas, les Français sont des tâches au tennis. Ça, on peut le dire quand même. Que ce soit Wilfried Tsonga ou pas. Alors, il joue mieux que moi. Probablement mieux que vous. Mais voilà.
Alors, Maître Serran, puisqu'on a eu un accident avec l'imam, qui a failli se faire dévorer par Ghost, qui, je le rappelle, a 5 mois, quels auraient été les recours juridiques de l'imam s'il avait été mordu par Ghost ?
Alors, avant d'entrer dans le contentieux, l'imam, très gentiment...
Merci de l'animal.
Voilà, non, alors, justement, non. D'abord, on regarde sur un plan purement civil si je suis effectivement assuré et si on peut remplacer le pouce de l'imam.
10 ans de prison pour chaque doigt. D'accord ? Pour le maître. Et euthanasie avec électrocution.
Voilà. Ça c'est un raisonnement
qui a osé...
de gens méchants. Alors que l'imam est venu et a fait un geste brusque pour faire peur à mon chien.
C'est pas vrai.
Voilà. Non, mais je dirais ça devant
lui,
la police.
Il m'a grogné dessus.
Vous savez qu'à hauteur de chien, quand vous voyez l'imam arriver, ça fait un peu peur quand même. Bah, il n'était pas habitué, l'imam Abdelali.
En même temps, c'est quelque chose qu'il faut rappeler.
C'est super important, on rigole.
À nos auditeurs, que l'islam n'est pas contre les chiens. Contrairement à cette mauvaise coutume et usage qui est propre à nos pays du Maghreb, qui consiste à penser que l'animal est un animal impur, dégueulasse, qu'il ne faut pas se toucher, pas s'approcher, qu'il fait éloigner les anges, etc.
Les anges de la
maison. Je rappelle qu'à l'époque du prophète, il y avait même des chiens dans la mosquée et qui venaient même uriner dans la mosquée. Et c'est rapporté par le Bukhari, pour celui qui conteste l'authenticité de ce que je viens de dire. Il n'a qu'à le chercher dans le Bukhari, il va trouver le hadith. que des chiens entraient dans la mosquée, ils étaient chassés. Bien sûr, on les chassait, on les faisait sortir, bien sûr, gentiment. Mais les animaux étaient respectés. C'était des animaux errants, certes errants, ils n'étaient pas la propriété de quelqu'un. Mais voilà, ils rentraient dans la mosquée. Il n'y avait pas d'histoire d'impureté.
Il y a peut-être, Imam Abdelali, quand même, de la responsabilité des imams qui, pendant des années, ont répondu à des questions et ils disaient non, les chiens sont impurs, la salive du chien est impure et les chiens font fuir les anges de la maison.
Heureusement que nous avons une belle école qui s'appelle l'école Malikite, qui considère que l'animal n'est pas impur, ni sa salive, ni rien du tout.
Mais il faut que.
Ce sont les autres écoles qui le considèrent.
Il faut que l'animal est une utilité.
Même pas. On parle du chien, en tant d'accord. qu'animal.
Animal
est-ce que
compagnie.
Sa salive, elle est impure ou pas? Pourquoi elle serait pure? Parce que c'est un animal un chien de chasse, un chien de garde ou un chien d'aveugle, qui là, à l'unanimité, bien entendu, est autorisé. Pourquoi la salive de ce chien-là, lui, serait pure, et l'autre ne le serait pas parce qu'il est inutile? C'est complètement absurde, c'est totalement illogique. Soit c'est impur pour tous, soit c'est pur pour tous.
C'est un discours que j'ai longtemps
entendu. Tu vois ce que je veux dire,
il y a
pas, c'est pas logique ça.
Et c'est à cause de ça, effectivement, qu'il était impossible d'avoir un chien, puisqu'on nous disait qu'effectivement, à partir du moment où il y avait un chien au sein
dans
de
la maison,
ça posait difficulté, et puis ça faisait fuir les anges. Mais voilà, on a toujours entendu ça.
Alhamdoulilah, nous avons des gens qui réfléchissent avec leur tête, parce que quand on va les remettre à leur place pour leur dire « Ouais, mais celui qui est avec un chien d'aveugle, comment il fait ?» C'est-à-dire, les anges, ils rentrent pas dans sa chambre. Mais lui, il a besoin de ce chien pour vivre. Et sinon, s'il n'a pas les yeux de ce chien, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire. Donc lui, il va être entouré que par des démons et les démons, parce que c'est un chien. C'est complètement absurde. Alors, ah oui, mais lui, c'est un chien d'aveugle, donc c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil?
Exact.
Il y aurait une sélection des anges. Ah, quand c'est un animal utile, on peut s'approcher, mais quand il est inutile, on s'éloigne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun, il n'y a aucune logique dans tout ça. Donc, je rappelle, moi, à tous ceux qui ont des chiens, notamment, ouais, c'est vrai, en l'occurrence, ton chien, c'est plutôt un chien de garde. Ça ressemble plus à un... C'est quoi, c'est un bulldog? C'est quoi, c'est
un... Alors non, parce c'est pas du tout un bulldog.
C'est un gentil
staff. Parce que là, s'il est bébé, il a que 5 mois, t'as dit?
Il a 5 mois.
Il a 5 mois? Alors, je sais pas comment il va être quand il aura...
Mais c'est un gentil chien de garde.
Non, mais c'est quoi la race?
Oui, c'est un staff.
Un staff, voilà, un staff.
Un staff américain.
Ouais, voilà, tant que tu vois, c'est... Ouais. Philippe fait le signe des chocottes là. Ça va, moi j'ai les chocottes. J'ai pas les chocottes, Philippe, des chiens. J'aime bien les chiens.
Non, je sais.
On va
évacuer le chien discrètement.
Dès qu'il est arrivé, je suis venu vers lui.
Et il s'est jeté directement vers vous.
Bon, voilà. Donc ça part que j'ai pas de problème de chien.
Non, je sais.
C'est que lui qui a eu peur de moi, peut-être.
Il
a eu peur, voilà, que je l'islamise ou je l'intégrise ou je le fondamentalise.
Oh, il a dit c'est ma circoncision. Voilà. Il a dit dire, c'est le jour de ma circoncision aujourd'hui. Voilà. Il y a l'imam qui arrive, je m'en vais. Et il est parti. Bon, l'imam Abdelali Mamoun dans un instant pour l'islam au présent. Et on retrouve Maître Serhan la semaine prochaine.
Avec un lion.
Il y a aussi un lion.
Là, par contre, là, non, c'est trop là.
Bien, à tout de suite.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.